Bonjour et bienvenue dans le podcast Art Éco Vert, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Alors, bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir sur le podcast Art Éco Vert Caroline Courtois. Bonjour Caroline.
Bonjour Pauline.
Alors Caroline, je voulais savoir si tu pouvais avant tout te présenter aux auditeurs, nous expliquer un peu ton parcours et comment tu en étais arrivée à la couleur végétale.
Oui, donc je suis Caroline Courtois. J'ai été formée en design produit en école d'art et notamment aux Arts Déco de Strasbourg. C'est là que je me commençais à me pencher sur la teinture végétale pour mon projet de diplôme. Je cherchais à montrer le passage du temps par un procédé ou un objet. Le passage du temps, ça pouvait être aussi le temps passé à fabriquer un objet. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait pas mal d'expérimentations sur le feutrage, notamment. Et puis, j'ai découvert la teinture végétale et je me suis aperçue que il y avait un lien entre la température du bain de teinture et la couleur obtenue. Donc, en fait, par association d'idées, j'ai commencé des expérimentations là-dessus et j'ai mis en point un projet que j'ai appelé « Couleur du temps », puis ensuite à la création de cueillir.
D'accord. Et du coup, tu as été formée donc, pendant tes études ou tu as pris d'autres formations ensuite pour explorer davantage?
Non, pendant mes études aux Arts Déco, on n'avait pas du tout abordé la teinture végétale. Les études en école d'art, c'est quand même très libre. On est plus amené à se forger des idées sur le monde, se forger un regard particulier à ce qui nous entoure. Et donc, par ce biais-là, à approfondir des thèmes qui nous intéressent. Et donc la teinture végétale, c'était vraiment de mon initiative. Mais ensuite, après mon diplôme, j'ai travaillé dans la mode en tant styliste accessoire. Mais j'ai jamais arrêté de faire des expos. Je montrais mon travail et notamment celui autour de la teinture végétale. J'ai quitté le domaine de la mode et là j'ai fait une formation spécialisée dans les teintures végétales avec Michel Garcia, Sandrine Rosier au Greta. Et c'est là que j'ai appris toutes les bases et le fonctionnement, les principes de teinture végétale pour pouvoir ensuite me les approprier, quoi.
D'accord, génial. Tu sais que t'es la première que je reçois qui a fait le Greta, cette formation-là. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment toi tu l'as, ce que t'as eu comme cours vite fait, les intervenants, comment t'as trouvé ça condensé, il me semble.
Oui, c'était une formation de un mois en mai, peut-être 2019, quelque chose comme ça, je sais plus très bien. La personne à l'initiative de cette formation, c'était vraiment Sandrine Rosier, qui nous suivait tout au long de la formation. Je pense qu'on devait être une dizaine à suivre cette formation. Ensuite, il y a Michel Garcia qui était parmi les intervenants les plus présents. Et ensuite, il y avait des intervenants qui étaient plus de passage, je dirais. Par exemple, une demi-journée avec Clément Bottier, qui nous a montré en partenariat avec Michel Garcia d'ailleurs les procédés de sérigraphie au mordant. Aussi sur vraiment l'histoire des couleurs spécifiques aux teintures végétales. Ça, c'était tous les matins, par exemple. Donc, c'était une formation.
T'as vraiment plus ce mode-là de parcours en un mois
Ah oui, c'était essentiel. Ouais. Ça permet de vraiment comprendre comment les différents paramètres des teintures fonctionnent entre eux pour arriver à une nuance bien définie. Et puis voilà, de remonter aux origines de la teinture, mais aussi des procédés d'impression qui sont liés à la teinture.
Du coup, est-ce que tu peux, maintenant qu'on a parlé un petit peu de ton parcours, est-ce que tu peux nous parler de Cueillette Paris ? Quand ça a été créé ? Où ça se situe ? Ce que tu y fais, tes activités principales ? Est-ce que tu as des personnes qui travaillent avec toi ? Est-ce que tu es seule ? Et nous expliquer ce que tu proposes comme, comme produit et service, on va dire.
Ok. Du coup, Cueillette Paris, c'est un studio de design, mais spécialisé dans la teinture végétale. Donc, je développe des projets à la demande pour des entreprises essentiellement. Mais le cœur des projets, c'est toujours de la coloration végétale. En même temps, je dirais que sur mon site, on voit une sorte de vitrine de ce que je peux faire au sein du studio. Des produits de papeterie, des carnets, dont les couvertures sont réalisées en teinture végétale ou en écoprint. Des accessoires textiles, parce que je ne me contente pas non plus au papier. Et des ateliers d'initiation, soit pour le grand public, soit pour les entreprises sous forme de team building. Et donc, quand ça a été créé, à peu près en 2020, bien que j'ai commencé avant à développer des projets, notamment autour de couleurs du temps. Je suis toute seule à temps plein, mais je suis épaulée par des personnes en freelance pour ce qui est de la production à l'atelier ou les relations avec les clients aussi.
Voilà, du coup, tu as du renfort quand il y a une commande ou un projet un peu plus conséquent, tu as des bras qui viennent aider. Et c'est quoi le type d'entreprise qui fait appel à toi, est-ce que c'est quoi un peu le type de boîte?
Dernièrement, j'ai beaucoup travaillé avec des boutiques de musées. On fait des collaborations et je leur propose de revaloriser les déchets verts qui se trouvent dans leur parc ou leur jardin en collaboration avec les jardiniers. Donc au fil, ce sont des collections saisonnières. En fait, on suit vraiment l'évolution du jardin. Et on crée comme ça des gammes de papeterie qui sont vendues ensuite dans la boutique, mais qui sont entièrement locales et c'est vraiment un circuit court. Ah, après, d'accord. Je travaille aussi avec des architectes. Des architectes, là, c'est plus de l'ordre du décor, en fait. Par exemple, au dernier salon Maison et Objets, j'ai montré un décor mural qui était composé de fleurs en papier sculpté.
Magnifique. Ouais. Ah ouais, je l'ai vu sur ta page Instagram.
Donc l'idée là, c'était de... J'ai développé des modèles de fleurs, mais qui sont des plantes tinctoriales, par exemple la camomille, qui était elle-même teinte avec des fleurs de camomille. Et donc là, l'idée, c'est de créer des décors sur mesure en fonction des coloris du lieu, de l'ambiance du lieu.
Ah, c'est génial. Alors, en tout cas, ce mur, je t'assure que je me suis dit, mais qui lui a fait ça? C'était trop beau. Et en plus, je savais pas que c'était teint avec des plantes. Mais déjà, ouais. Tu vois, rien que sur ta vidéo, je me disais, c'est magnifique. Mais si en plus, t'apportes le fait que les fleurs soient des fleurs tinctoriales et qu'elles soient teintes, par la même fleur, comme tu disais, camomille, c'est canon, quoi. D'accord, ok. Ouais, donc ça t'ouvre un monde même de déco, peut-être de boutique, de magasin, pourquoi pas de... Tu vois, je pense à Mathieu Ruiz dans son épisode qui me parlait de peut-être des décors de la Fashion Week ou des trucs comme ça. Je me dis, c'est un monde que t'ouvres en fait. Et en fait, ça pourrait carrément être ça, des défilés ou des trucs. D'accord, on n'avait jamais vu cette application de la couleur végétale. D'accord.
Et d'ailleurs, je travaille avec des fleuristes aussi comme ça pour des décors de boutique autour des fleurs sculptées justement. Et l'idée, ça serait pareil, de récolter leurs invendus de plantes ou de fleurs pour vraiment créer des modèles sur mesure. Mais c'est encore à l'étape de projet.
D'accord, super. Bah écoute, c'est que des nouvelles choses que je ne connaissais pas. Et quand tu dis des team building, c'est quel type de, pareil, d'équipe, c'est quel type d'entreprise qui se tourne vers...
Le plus souvent, ce sont des entreprises dans la mode qui font, par exemple, des parcours mode éco-responsable pour sensibiliser un peu leurs équipes. Et donc, la teinture végétale, c'est une des alternatives possibles. Donc, c'est plus de l'ordre de la démonstration et du petit échantillonnage que de la fabrication vraiment d'un objet pendant l'atelier, quoi. C'est des formats plus courts que les ateliers d'initiation.
D'accord, ok. Et donc, sur ton site, c'est ce que j'avais vu, c'est que tu l'as dit, il y a tout ce qui est papeterie. Donc, j'ai vu que tu avais des marque-pages, que tu avais des petits carnets, etc. On n'a jamais parlé sur le podcast de la teinture végétale sur papier. Et j'avais des questions, notamment techniques, qui me sont venues. C'est généralement, les fibres, on les mordance, on les prépare pour accueillir la couleur. Comment ça se passe avec du papier? J'avais cette question qui me tourne.
En fait, avant quand même de réussir à teindre de façon efficace du papier, ça m'a demandé quand même beaucoup de recherche et de mise au point. Mais sur le principe, je travaille comme avec le tissu. C'est-à-dire qu'en effet, je mordance le papier. Après, ça... Les bains de plantes sont plus concentrés forcément pour que on n'ait pas besoin de laisser tremper le papier aussi longtemps que le tissu dans le bain de peinture. Comment travailler le papier par affinité personnelle, et puis en fait la teinture là, elle se rapproche vraiment de l'aquarelle. Ça se travaille un peu comme de la peinture, ça j'aime beaucoup.
Première question un peu technique parce que j'avais un doute, je me suis dit est-ce que ça se mordance ou pas. Après, j'ai vu, et alors pareil, t'es la première chez qui j'ai rencontré ce terme-là, j'ai vu que tu faisais ce que t'appelles, je pense que ça s'appelle comme ça, de la teinture végétale solaire. Et t'as une application hyper originale de ta teinture. Alors, j'aimerais que tu racontes aux auditeurs la technique de la teinture solaire et ce que toi, t'en fais de...
Du coup, ça, c'est vraiment le projet par lequel je suis arrivée à la teinture. Comme je vous disais, c'était mon projet de diplôme en 2015 aux Arts Déco. Donc, je cherchais à montrer le passage du temps par un procédé ou un objet. J'ai fait des tests de feutrage parce que je me disais, plus on feutre la laine, plus elle rétrécit. Donc, on pourrait voir sur un seul et même objet le temps passé à fabriquer l'objet par rapport à l'aspect qu'il aurait. Puis, j'ai un peu tâtonné, regardé du côté de la teinture végétale et je me suis aperçue que plus le tissu chauffe dans le bain de teinture, plus il devient foncé. Enfin, en tout cas, c'est un des paramètres qui conduit à obtenir une nuance précise. Et dans le même temps, je regardais beaucoup les machines qui fonctionnent à l'énergie solaire et j'aimais le fait que, comme elles fonctionnent à l'énergie solaire, en fonction de la météo du jour, il peut y avoir des irrégularités qui se produisent sur une pièce. Et donc, par association d'idées, je me suis dit, mais en fait, si je mets le colorant dans un bocal à l'extérieur, au lieu d'utiliser une source électrique, par exemple, pour faire chauffer le colorant, a priori, les couleurs seront différentes en fonction de la météo du jour. Je colle comme ça, très fixe. Tous les matins, je mettais dans un bocal une certaine dose de colorant, donc de bain de plantes, avec toujours la même qualité de tissu mordancé de la même façon. Je ferme le bocal, je le mets à l'extérieur et le soir, je récolte une couleur dont la nuance, reflète la météo du jour, le taux d'ensoleillement, la température. Et l'idée, c'était de bloquer comme ça les paramètres et qu'il y ait uniquement le paramètre de la température qui influe sur la nuance du jour. Et ce procédé-là, je l'ai répété pendant des mois et des mois. Ça aboutit à des nuanciers que j'ai appelés saisonniers et qui sont des sortes d'alternatives poétique à des tableaux météorologiques. Donc, en fait, chaque couleur est vraiment le millésime d'une journée. Et donc, un souvenir unique de cette journée-là.
Et j'ai vu que... Enfin, j'adore beaucoup cette idée, c'est que tu as fait un... Alors, tu me dis si... Moi, c'est ce que j'ai lu, ce que j'ai regardé et tout, mais... Mmh. Apparemment, tu proposes des ateliers où les personnes font leur teinture solaire et repartent avec un morceau de... Ben, attention, je vais mal le dire, moins poétiquement que toi, mais un morceau de tissu qui, justement, conserve cette journée, ce souvenir de cette journée, et tu le mets dans un magnifique bijou. Est-ce que j'ai confondu deux trucs
Les ateliers que j'anime chez moi, ce sont des ateliers pendant lesquels on fabrique un carré de soie. Mais l'histoire de couleur du temps, du coup, des teintures végétales solaires, ça, c'est pas sous forme d'atelier. En effet, j'insère chaque échantillon à la demande dans un petit bijou. Qui est un médaillon en laiton plaqué or que j'ai dessiné et qui est fabriqué en région parisienne et qui est creux à l'intérieur. Donc, ça permet d'insérer à la demande un échantillon de soie et c'est un souvenir de mariage, d'anniversaire, de naissance à travers une couleur plutôt qu'à travers une date gravée ou un prénom gravé. Mais ça, en fait, les couleurs, je les fais à la demande. C'est pas les gens qui le font. Ils me disent, par exemple, je voudrais un médaillon dans les tons de rouge. Donc, moi, je vais teindre avec de la garance. Et en fonction de la météo du jour, les nuances de cette couleur vont aller du corail jusqu'au rouge. En fonction, voilà, de la température de la journée, essentiellement.
D'accord, ok. Bon, j'ai fait un mix de deux choses, oui. mais en tout cas, l'idée... de capter un moment de la journée était bien là. J'ai une autre pratique que j'ai vue sur ton site, c'était l'impression végétale et la sérigraphie. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce sujet-là?
Oui, ça pour le coup, c'est vraiment une technique que j'ai découvert grâce à ma formation Greta. Donc en fait, les carrés de soie sont sérigraphiés au cadre, à la main, avec un mordant à base de fer. Ensuite, c'est séché et après, on teint le carré de soie déjà imprimé dans un bain de plantes. Et c'est au moment de la teinture que le dessin se révèle. Donc ça, c'est assez magique. Et c'est une très belle technique parce que c'est vraiment la teinture qui crée le motif. Il n'y a pas de surépaisseur comme si on imprimait avec une encre de sérigraphie traditionnelle. Et en plus de ça, le motif est toujours en harmonie avec le fond du carré de soie. C'est-à-dire que si on teint, par exemple, avec du jaune, le dessin marron, marron très foncé, donc ça contraste beaucoup avec le fond du carré de soie. Si on teint en bleu, ce sera plutôt un surton, donc un dessin gris avec un fond bleu. Avec le rose de la cochenille, on va avoir un motif bleu marine sur un fond rose fuchsia. Et ça, pour le coup, c'est la technique que j'enseigne en fait pendant les ateliers d'initiation. On réalise un petit carré de soie qui fait 45 par 45 cm avec cette technique-là.
D'accord, ok. Bon, c'est ouais, je les ai vus. Bon, donc j'invite tout le monde à aller voir ton site du coup. Et c'est dommage que t'aies pas mis sur ton site le mur que t'as fait de fleurs pour maisons et objets. Ça aurait été hyper une super bonne publicité parce qu'il est magnifique. Mais bon, je sais pas si t'as des Tu l'as gardé sur ton fil Instagram, mais en tout cas, j'invite les gens à aller regarder ce que ça rend, parce que ça rend vraiment super bien.
Je vais mettre une vidéo où on voit le montage du mur, là.
D'accord, ok. Ouais. Je voulais savoir, donc on a parlé des grandes thématiques. Est-ce que tu peux nous parler de ton écosystème, tes partenaires, par exemple là où tu trouves ton tissu, avec qui tu prends tes colorants, comment ça fonctionne pour toi? Est-ce que ça a été facile de mettre ça en place et comment tu fonctionnes aujourd'hui?
Ouais, ça s'est fait petit à petit, comme pour tout. La soie, en effet, c'est le premier partenaire que j'ai eu à trouver. parce que j'ai commencé par les carrés de soie. Et donc, c'est un tisserand qui est situé en région lyonnaise, qui tisse la mousseline de soie que j'utilise pour fabriquer les carrés de soie. Après, au niveau des partenaires, y a les personnes qui fabriquent mes bijoux, qui sont en région parisienne. Je dirais pas que ça a été très compliqué de les trouver, mais il faut quand même avoir la patience de chercher, de s'adresser à différentes personnes pour voir, pour connaître leurs tarifs, mais aussi voir ceux qui ont envie de travailler. Vraiment, de plus en plus, je me tourne, j'essaie de créer en fait un écosystème de partenaires de récupération de déchets, que ce soit dans les cuisines ou bien dans les parcs et les jardins, comme je vous disais. Mais j'achète aussi des...
Ouais, par exemple, la Garance, où on ne la trouve pas non plus partout.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais je crois qu'il y avait eu un épisode avec le champ des couleurs.
Oui.
Ouais.
L'épisode 29.
Elle, par exemple, ça m'a plu de les entendre parce que j'ai déjà commandé des plantes chez elle et c'est intéressant de connaître un peu l'envers du décor, quoi.
D'accord, ok. Et donc, toi, ta vision, quand même, c'est voilà, la récupération de ce qui existe déjà pour en faire de la couleur. C'est quand même ta démarche,
ouais.
Quoi. Ouais,
ouais. Ouais. Et de plus en plus, enfin, au départ, en effet, je me procurais des plantes plus comme ça en ligne. Mais au fil des partenariats, des collaborations avec les entreprises, je me rends compte de la masse, du potentiel de chaque jardin en produits colorants. Donc, je trouve qu'il n'y a pas tellement de raisons, à part pour des couleurs vraiment spécifiques, de ne pas faire avec les ressources qui existent déjà.
Vite pour qu'il y ait pas pour ton entreprise.
Développer les projets à la demande, moi, très clairement, c'est ce qui me passionne le plus. C'est aussi parce que c'est mon métier au départ, mais de répondre à des demandes, d'imaginer des projets en fonction des contraintes, ça, c'est au final très inspirant. Voilà, et puis de trouver un lieu pour m'installer à Marseille, parce que là, je suis un peu en transition. Donc voilà, de trouver un lieu adapté à ma pratique.
D'accord. Et t'étais où avant de déménager, enfin de vouloir aller vers Marseille ?
J'étais à Paris, à Ménilmontant, dans le 20e, dans un atelier partagé avec d'autres designers, mais on avait tous nos spécificités.
D'accord, donc tu cherches un lieu à Marseille, donc si jamais il y a quelqu'un qui écoute et qui a quelque chose, ne pas hésiter à le dire. Je voulais voir avec toi, donc dans la partie transmission, tu as parlé de tes ateliers, tu as parlé de l'atelier avec les carrés de soie, tu as parlé des team building, est-ce qu'il y a d'autres types d'ateliers que tu proposes et vers quelle cible?
À Paris, des ateliers sur un week-end, ce qui permettait de quand même plus approfondir les différentes techniques. Et puis j'avais dans l'idée de proposer des cours sur un trimestre, ou bien même à l'année, un jour par semaine, un peu comme on irait à un cours de peinture toutes les semaines. Parce que pour moi, la teinture végétale, c'est vraiment un médium en soi, quoi, comme de la peinture ou de la sculpture pour développer des projets dans différents domaines. Donc ça, j'aimerais bien pouvoir mettre ça en place.
On va voir un peu qui sont.
La teinture végétale, bien sûr, je regarde le travail de personnes dont on a beaucoup parlé déjà sur le podcast, mais finalement, mes sources d'inspiration, elles sont plus larges et au-delà de la teinture végétale en elle-même. Ça tourne plus autour de l'histoire de l'art, très très admirative du travail de Michel Blasi, par exemple, qui fait pas du tout de teinture végétale, mais qui fait par exemple des installations qui évoluent au fil de l'exposition, donc il travaille quand même avec des matières vivantes, organiques souvent. Pour donner un exemple, il va tous les matins presser un jus d'orange, sur une table dans la galerie. Et forcément, les oranges, elles évoluent au fil du temps, elles moisissent. Donc, si on vient voir l'exposition le premier jour ou le dernier jour, c'est une exposition qui a une facette différente. Donc ça, c'était vraiment des sources d'inspiration de façon large aux artistes contemporains qui travaillent la couleur ou aux designers d'ailleurs. Il y a Rocolor, par exemple, qui fait des choses très, très intéressantes au niveau du textile, mais aussi au niveau des objets.
Voilà. Recolor, ben, je connais pas. Ouais. Recolor, ben, je me note. Ok, donc plus large que la teinture végétale, c'est là où tu trouves aussi ta source d'inspiration. Qui fédère aujourd'hui pour toi autour de la couleur végétale en France, qui permet
À l'écoute de ton podcast, je dirais que c'est quand même Michel Garcia, parce que je pense pas qu'il y ait eu un seul podcast où il est pas cité. Oui, en fait, même pendant Maison Objet, j'ai croisé 2-3 personnes qui m'ont parlé de teinture végétale et donc de Michel Garcia. Ensuite, au niveau des événements, vraiment, moi, j'en connais pas. J'ai entendu parler du symposium, mais j'y ai jamais participé.
Apparemment, si j'ai bien tout compris, ce serait en automne 2025, le prochain, et il serait en France. D'accord. Si j'ai bien compris.
Ouais.
Donc ça, ce serait plutôt pas mal, plutôt que de partir à l'autre bout du monde, c'est quand même plus avantageux. Facile, mais... Ce sera plus facile. Si t'étais une plante tinctoriale, tu serais laquelle et pourquoi ?
J'aimerais bien être le coquelicot. Parce que c'est une plante toute fragile, toute délicate et qui a beaucoup de puissance en même temps. Et puis elle est hyper surprenante. J'arrive à avoir du vert, comme du bleu, comme du rouge, en fonction, je pense, de l'état dans lequel elle se trouve, si elle est sèche ou bien fraîche. Mais j'ai pas encore réussi à vraiment comprendre les raisons pour lesquelles elle peut changer de couleur comme ça. Donc en ce moment, c'est le coquelicot qui me fascine.
D'accord. Ta fibre de prédilection ?
C'est le papier, très clairement.
Et c'est du papier. Tu fais pas ton papier toi-même, parce que je me suis dit, t'as aussi la possibilité de faire du. J'ai vu des trucs sur internet de faire ton papier et tout ça. Ouais. Non, ça te.
Oui, ça doit être très très amusant à faire, mais je peux pas tout faire non plus en fait. Donc je me concentre sur la couleur et ouais. Mais ça doit être amusant.
Et c'est déjà pas mal. Ok.
Oui.
D'accord. Est-ce que tu as des livres à recommander aux auditeurs qui t'ont, toi, inspiré, accompagné, que tu aimerais partager ?
Le livre de Marie Marquet, ça c'est sûr. C'est celui que j'ai toujours avec moi. Il est essentiel quoi, pour reconnaître les plantes. On a même des recettes qui peuvent nous guider à l'intérieur, donc ça c'est vraiment la base. Et puis ensuite, il y a le livre d'Aurélia Wolf aussi, qui est très bien fait, dans lequel je me reconnais beaucoup parce qu'on a fait la même formation et puis je ressens les inspirations, ah ouais, je pense, qui viennent de la formation. Voilà.
D'accord. Et vous avez fait la même formation le Greta ou vous avez fait la même formation
au Greta. Je pense qu'elle aussi, elle a fait la formation Greta, il me semble.
D'accord, ok. Ok. Donc, tes prochains projets, tu en as parlé. Ton déménagement à Marseille, d'en trouver ton local. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, que tu aurais voulu qu'on aborde ? Des questions que je t'ai pas posées, que tu aimerais que je te pose. Elle est bizarre, cette question.
Non, je passe un peu tout en revue, mais bon, c'est déjà très complet, me semble.
Nickel. Eh bien, écoute, j'ai deux dernières questions. La première, c'est quel a été ton épisode de podcast préféré sur le podcast Arrêt Couvert ?
Le champ des couleurs. J'ai trop aimé apprendre un peu comment elles fabriquent, comment elles en viennent au produit fini, quoi, que j'utilise ensuite pour faire des écoprints notamment. C'est vraiment intéressant.
C'est fou, il revient souvent. Moi, c'est clairement mon... C'était vraiment... la rencontre avec Laura, ça a vraiment été un coup de cœur. Il y a... Donc, c'est l'épisode 29, je le rappelle pour ceux qui écoutent. Il y a aussi l'épisode, je ne sais pas si tu l'as écouté, de Liv Aden en Bretagne, l'épisode 33, où pareil, on parle des plantes tinctoriales, de la plante, la culture, jusqu'à la couleur finale. Et comme ça plaît beaucoup aux auditeurs, on va recevoir d'autres invités, soit qui reviennent, soit des nouveaux, pour nous parler encore de la culture des plantes, parce qu'en fait, bah, ça passionne quand même. Les auditeurs sont des férus de botanique, donc voilà, il y aura d'autres invités là-dessus. Je voulais savoir, toi, à qui t'aimerais passer ton micro pour continuer à explorer, bah, voilà, des autres facettes de la couleur végétale, d'autres techniques, d'autres façons de faire. À qui tu penses?
Alors, j'avais pensé à Juliette Vergne, qui est, je crois, vers Mulhouse. Elle travaille beaucoup aussi la sérigraphie, voilà, avec des encres végétales. Et Aurore Pélisson, qui elle est plutôt en Provence, il me semble. Donc, je connais leur travail.
Alors, c'est rigolo parce que... Ouais. Aurore, elle m'a envoyé un mail cette semaine, justement. Donc, on va enregistrer toutes les deux. Donc, ça, c'est chouette. Mais pareil, je ne sais pas où elle est basée.
Bon, elle a
répondu. Et c'est quoi sa particularité d'Aurore, du coup ?
Je crois qu'elle fait de la sérigraphie sur son Insta. J'ai vu qu'elle sérigraphiait le sol de l'herbe. Alors, j'ai trouvé que c'était une trop belle idée. Et en fait, je la connais par une amie qui était en céramique aux Arts Déco. C'est sa sœur. Et donc, je serais curieuse de voir un peu comment elle travaille.
D'accord, ok. Est-ce que tu penses à d'autres personnes? Juliette Vergne, Aurore Pélisson, est-ce que tu penses à quelqu'un d'autre?
Il y a Dominique Nogg qui a fait la formation avec moi au Greta.
Dominique, comment? J'ai pas entendu.
Nogg, N-O-G-E-S.
D'accord.
Je sais, il me semble. Elle a créé un jardin de plantes tinctoriales. Elle est très intéressante.
D'accord. Okay. Bon, bah, écoute, je vais voir la contacter. Super. Bon, bah, écoute, franchement, Caroline, on a découvert d'autres applications, tu vois, le papier, l'architecture pour la déco. C'est vrai que moi, c'est ton mur, je suis hyper ravie d'avoir l'explication, tu vois, parce que ça m'a vraiment interpellée. Et tu nous as donné des noms que je ne connais pas et des pistes. Tu vois, je trouve que c'est inspirant parce que tu as une approche complètement différente, beaucoup, beaucoup avec la notion du temps qui passe, je trouve. Donc, c'est intéressant aussi de voir ça, c'est plaisant. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Caroline, pour ton témoignage. Et je te
Merci
dis à bientôt.
Merci à toi, Pauline. À bientôt.
Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arécovert, ARTECOVERT, pour y découvrir le nom des prochains invités. Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale. Merci à tous.